la science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce tout premier numéro de La Science s'amuse, une émission scientifique coproduite par Divergence FM et l'Université de Montpellier. Chaque mercredi, nous vous embarquons pour une croisière découverte dans l'archipel des laboratoires de l'université et de ses partenaires de la Fondation Muse. Pour cette première escale, plongez avec nous à 120 mètres de fond dans les eaux sombres du golfe de Gascogne, où l'aventure navigue entre robotique et archéologie. Notre invité du jour est roboticien au laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier. Il a participé en juillet dernier à une mission d'archéologie préventive en compagnie de Basile, un robot sous-marin. Nous accueillons aujourd'hui Vincent Creuse. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Et bienvenue. Avec moi à la barre, comme chaque semaine, pour fixer le cap de cette interview, la journaliste scientifique Aline Perriot. Salut Aline.
Bonjour Lucie, bonjour Vincent.
En deuxième partie d'émission, la séquence reportage en salle des machines vous emmène découvrir un lieu insolite, un équipement ou une machine. Et cette semaine, c'est Caroline Lou qui nous ouvre les portes de l'herbier de Montpellier. Enfin, Amrine Nagamia me rejoindra dans le studio pour sa chronique start-up et la vedette du jour s'appelle Bulan. La science s'amuse, vous avez la carte, on embarque. Donc Vincent Creuse, vous êtes parti du port de Bayonne le 30 juin 2020 pour une mission spéciale à bord du bateau l'André Malraux, avec un passager singulier, Basile. Est-ce que vous pourriez nous le décrire ?
Alors Basile, c'est un robot sous-marin téléopéré, un ROV, et c'est donc relié au bateau par un cordon ombilical qui permet de le piloter, qui permet également aux gens qui sont en train de le piloter et aux gens qui l'accompagnent, qui sont des archéologues, de voir ce qui se passe au fond. Donc c'est un petit robot, hein, c'est un robot qui pèse entre 20 et 30 kg selon les capteurs qu'il emporte et qui mesure une cinquantaine de centimètres. Donc il a l'avantage d'être facile à mettre à l'eau, très rapide à remettre et à sortir de l'eau, ce qui permet d'enchaîner les missions et ce qui permet aussi de l'utiliser de bateaux relativement modestes. C'est tout de même des bateaux d'une trentaine de mètres, mais ça reste raisonnable pour mettre à l'eau un robot sous-marin qui parfois peuvent nécessiter pour les plus gros des bateaux extrêmement importants.
Alors, vous avez mené ce projet avec le DRASM, le département des recherches archéologiques, subaquatiques et sous-marines, pour une mission d'archéologie préventive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'archéologie préventive ?
Oui, l'archéologie préventive, c'est quelque chose qui est organisé par l'INRAP, l'Institut National des Recherches d'Archéologie Préventive, justement. Et c'est ce qu'on fait habituellement quand on va construire un nouvel immeuble ou quand on va construire une route. Si l'on trouve des vestiges, il y a l'archéologie préventive qui passe, qui inspecte le site et qui regarde si ces vestiges méritent une étude particulière. C'est pour ça que parfois les travaux sont interrompus le temps que l'étude archéologique soit menée. Et bien pour la mer, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on place un câble de transport d'énergie ou un câble de télécommunication, c'était le cas ici dans la mission dans le golfe de Gascogne, eh bien, l'aménageur va faire passer un premier navire avec des sonars et des magnétomètres et va faire une imagerie complète des fonds marins à distance et va repérer dans ces images tous les points d'intérêt qui sont susceptibles d'être des sites archéologiques. Et ensuite, l'INRAP et le DRASM vont organiser la sélection des cibles qui sont intéressantes et ensuite l'INRAP va mettre en œuvre l'expertise des cibles. Donc là, cette fois-ci, ces cibles qu'on a repérées dans des images sonars grossières, eh bien, on va aller avec un robot ou avec des humains, lorsque la profondeur le permet, aller regarder ce dont il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un caillou, d'une bombe, d'un faux reflet, d'un déchet ou bien d'un site archéologique.
Et pourquoi, dans certaines situations, on envoie des robots plutôt que des humains pour faire ces plongées ?
Alors, il y a plusieurs raisons pour cela. C'est principalement la profondeur. Donc, lorsqu'on est à des profondeurs... Là, sur cette mission-là, on avait une douzaine de cibles à effectuer et c'était dans la zone entre 90 et 120 mètres. Donc là, des plongées comme celle-ci, si on les fait par un humain, les cibles étant distantes de 1 km, eh bien, il va falloir à chaque fois plonger, faire les paliers de décompression pendant plusieurs heures, puis attendre que le corps se désature et replonger, ça prendrait plusieurs jours. Et ça mettrait inutilement des vies en danger.
Là, justement, vous avez mis 14 heures pour faire les 12 cibles,
là,
c'est ça?
En 14 heures, on a fait 12 plongées à 120 mètres réparties sur 10 km de distance. Donc même avec des plongeurs à saturation qui vivraient qui seraient descendus avec une cloche et qui vivraient sous pression, ben ce serait de toute façon plus long, plus dangereux, ça nécessiterait des bateaux plus gros.
Et ce fameux robot, donc, comment est-ce qu'il est piloté ?
Alors le robot est piloté depuis la surface, à bord du navire, hein, c'est un archéologue qui va piloter le robot, on pourra y revenir plus tard. Le LIRM permet justement de faciliter le pilotage de ces machines. Et l'archéologue va avoir un sonar à bord du robot qui va permettre de repérer la cible de loin, parce que les positionnements des cibles sont assez approximatifs au départ. S'approcher de la cible et puis ensuite faire une levée de doute avec des images vidéo. Donc on tourne autour de la cible dans tous les sens, on l'observe. Si nécessaire, le robot peut souffler sur la cible pour évacuer un peu de sédiments, pour la dégager un peu du fond, pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Avec les sonars, on peut prendre des mesures également. On peut regarder les dimensions de la cible si on a un doute.
Le rôle du LIRM, exactement. Est-ce que vous avez participé à la construction du robot ou est-ce que vous êtes vraiment sur l'aspect logiciel ou
Alors, on intervient à tous les niveaux. Le LIRM travaille pour le DRASM. C'est un robot qui appartient au DRASM, qui est donc un département du ministère de la Culture. Et nous intervenons pour la conception. Il y a une longue collaboration. Depuis 2013, on est aux côtés du DRASM pour un programme de développement de robots spécialisés dans l'archéologie sous-marine. Et donc, ce robot fait partie des nombreux robots et des nombreux systèmes qu'on a développés avec le DRASM. Donc, le robot Basile a été conçu au LIRM. Alors, bien sûr, on fait sous-traiter la fabrication mécanique et le câblage des cartes électroniques, etc. Mais on réalise également parfois une partie de ces travaux-là. Donc, dans ces cas-là, on utilise des entreprises locales et tout ce robot est entièrement made in France. Et donc, au-delà de la conception, il y a également la programmation de la machine. Donc on programme tous les composants qui sont à l'intérieur et on va, et c'est la spécialité du LIRM, développer des logiciels d'aide au pilotage. Donc ce sont des sortes de pilotes automatiques qui vont se placer entre le joystick du pilote et le robot. Il y a un ordinateur qui contient tous ces systèmes. Donc il y a une première partie qui permet au robot de se stabiliser, d'être, malgré sa petite taille, de rester remarquablement stable dans tous ses degrés de liberté, donc que ce soit en cap, en profondeur, en tangage, là on arrive à atteindre des précisions de positionnement qui sont de l'ordre de 2-3 cm, là où les robots du commerce sont en général moins performants.
Donc là, la personne qui pilote le robot, c'est l'archéologue ou c'est vous ?
C'est l'archéologue. Le but, c'est justement que ces logiciels d'aide au pilotage permettent à tout un chacun de se concentrer sur sa propre expertise scientifique, que ce soit un archéologue ou un biologiste, sans nécessité de phase d'apprentissage du pilotage complexe, puisque habituellement, vous avez un pilote de ROV qui est un expert du pilotage, et à côté de lui, vous avez un archéologue qui lui dit « fais ça ». Et le temps que le pilote réagisse ou si non, on ne le prend pas comme ça, c'est trop tard, la chose est faite. Donc c'est quand même beaucoup plus efficace si c'est le biologiste ou l'archéologue lui-même qui peut piloter le robot. Et juste pour terminer sur les contenus dans ces machines-là, au LIRM, on travaille aussi sur la localisation. Donc ça va être la localisation par caméra. Donc ça, c'est une collaboration qui vient de se terminer avec l'ONERA, qui est l'agence spatiale, aérospatiale et aéronautique française, donc dans laquelle on a développé une caméra qui permettait de localiser le robot à quelques centimètres près. C'était un doctorant...
Oui, parce que le GPS ne fonctionne pas sous l'eau. Donc vous, quand vous êtes à la surface sur le bateau, comment est-ce que vous savez où se trouve votre robot précisément ?
Alors pour cela, on a deux méthodes. Donc il y a le système USBL, Ultra Short Baseline, qui est un système de balise acoustique avec une antenne acoustique. Et puis un petit transpondeur qui va répondre aux interrogations acoustiques du robot, du bateau. Et donc le robot va réémettre ce qu'on appelle un ping, c'est un son, et l'antenne va détecter la direction dans laquelle vient ce son. Et à partir de ça, il est capable de déterminer à 2-3 mètres près où se trouve le robot, et puis ça, c'est rafraîchi toutes les secondes. Donc c'est pas suffisant pour faire de la localisation précise et pour faire de la manipulation sous-marine. Donc c'était le sens de la thèse de Maxime Ferreira qu'on a terminée avec l'ONERA et qui a permis de compléter ce système USBL par un système optique qui tient dans une bouteille d'eau minérale et avec une caméra, un ordinateur embarqué, un capteur de pression, une petite centrale d'attitude qui est un système qui mesure l'orientation de la caméra, et bien on est capable de compléter l'USBL pour atteindre des précisions centimétriques. Et en même temps, ce système-là va fabriquer une carte en 3D de l'environnement qui va permettre aussi aux pilotes de mieux se représenter l'environnement dans lequel il évolue, parce que quand on arrive, on ne connaît pas l'épave. Et là, avec ce système-là, elle va se construire progressivement devant les yeux du pilote.
Et donc ce robot, comment il est alimenté en fait quand il est, comment il est alimenté et quelle autonomie il a?
Alors il a une autonomie infinie, c'est la fatigue du pilote. Donc on peut se relayer si on veut, il est arrivé qu'on fasse des plongées d'une douzaine d'heures. C'est aussi un avantage par rapport à l'humain, bien qu'il n'y ait pas que des avantages. Hein. L'humain reste toujours plus habile dans la manipulation lorsque c'est possible. Il est toujours préférable d'envoyer des humains. Mais lorsqu'on atteint les limites physiologiques, là, de toute façon, le robot est indispensable. Et son énergie lui est fournie par le câble ombilical. C'est un câble électrique qui contient à la fois des fils électriques qui vont lui amener de l'énergie depuis le bateau. Donc là, on n'a pas de limite d'autonomie en termes d'énergie. Et ensuite, il y a également une ligne, comme une ligne ADSL un peu, qui va permettre de transférer les vidéos et puis de lui indiquer les ordres. Ou pour les robots les plus profonds, des fibres optiques.
Donc au final, c'était une première sortie pour le robot Basile, cette mission ou pas?
Alors non, Basile avait déjà fait plusieurs sorties, puisqu'on chaque fois qu'on propose un nouveau système, on va le tester sur des faux sites archéologiques ou des vrais sites archéologiques. Et donc il avait déjà plongé. Mais c'était sa vraie première mission opérationnelle où c'était entièrement centré sur l'archéologie.
Et donc il a accompli sa mission ou alors vous avez noté des points d'amélioration possibles?
Alors il a accompli très bien sa mission et j'étais même encore la semaine dernière à Dunkerque où nous avons renouvelé l'opération. Alors les conditions totalement différentes. À 30 mètres de profondeur, on a enchaîné les cibles dans un fort courant et une turbidité énorme et il a très bien fonctionné. On trouve toujours des petits ajustements, alors ça va être sur l'interface homme-machine, c'est-à-dire la manière de présenter les chiffres ou de superposer les informations sur l'écran. Ça va être également sur les réglages des éclairages, où là on s'est aperçu que bien en eau très turbide, on avait intérêt à rendre encore plus fin la possibilité de réglage des spots du robot par exemple.
Il s'agissait aussi d'une mission d'archéologie préventive?
Oui, tout à fait. Là, il y avait deux câbles, une câble d'interconnexion entre la France et l'Angleterre et un autre câble qui allait alimenter un futur parc éolien.
Et sur cette mission, justement, en l'occurrence, vous n'avez pas trouvé de site archéologique. Mais qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez trouvé des vestiges sur le trajet du câble?
Alors, tout simplement, les vestiges vont être évalués. Soit c'est possible de contourner. Dans ce cas-là, le DRASME prescrit un contournement. Et le câble va faire un écart d'une vingtaine ou une cinquantaine de mètres, enfin selon l'ampleur du site, pour éviter le site, tout simplement. Donc ça a un coût, évidemment, donc on essaie de le limiter. Si c'est un objet archéologique qui est isolé, qui peut être prélevé ou étudié, ben dans ces cas-là, on va simplement procéder à l'évaluation ou à l'étude de l'objet avant de passer le câble et à son prélèvement, par exemple.
Et pour le prélèvement, justement, parce que vous avez déjà envoyé des robots explorer des épaves, comme par exemple celle de la Lune, un navire de guerre de la flotte de Louis XIV, qui a sombré en 1664 en rade de Toulon. Et là, vos robots ont pu remonter des vestiges archéologiques. Et comment est-ce que vous faites pour qu'ils puissent les prélever et les remonter à la surface sans les abîmer?
Alors ça, c'était l'enjeu principal de la collaboration avec le DRASME dès le départ, et ça l'est toujours. C'est le prélèvement, mais maintenant on a bien avancé et on a atteint presque nos objectifs initiaux. C'était comment prélever un objet sans l'abîmer, sachant que les robots qui existent sur étagère, les robots industriels, sont faits pour tourner des vannes en offshore ou pour meuler, poncer, découper ou aller mesurer des choses sur des oléoducs. Donc ce sont des robots qui ne sont pas du tout délicats, ce sont des grosses pinces hydrauliques. Et en gros, ces robots-là qui étaient utilisés par les archéologues jusqu'à présent, détruisait un objet sur trois. Donc le DRASME ne pouvait pas accepter cela. Et donc nous avons développé des systèmes. Alors ce sont des systèmes de griffes, par exemple. Ça marche très bien. Ce sont des griffes qui sont à la fois souples mais robustes et qui vont saisir un objet en le soulevant simplement. et conjuguée aux lois de commande qu'on développe au DRASME, au LIRM, pardon, et qui permettent d'avoir une précision énorme en profondeur et en positionnement horizontal, on arrive à se placer très près de l'objet et à le soulever sans le compresser. Ensuite, on le maintient dans ses griffes qui le protègent pendant son transport. On le dépose dans une caisse de prélèvement spécialisée avec un petit coussin, des choses très confortables pour l'objet. Et ensuite, l'objet est remonté à la surface et pris en charge immédiatement par les gens qui s'occupent de la restauration. Parce que si on laisse un objet à l'air trop longtemps, il va s'endommager.
Mais l'archéologue qui est sur le bateau et qui pilote le robot au moment de la mission, oui, est-ce qu'il arrive à voir l'objet pour évaluer, par exemple, est-ce que c'est un matériau fragile, est-ce qu'il va falloir appliquer une pression plus ou moins importante, et dans quelle mesure il a une vision sur ce qui peut remonter
Alors, tout à fait. C'est aussi l'intérêt de le faire piloter le robot par un archéologue, c'est qu'avec les caméras, lui, il va voir, bon, je suis sur une épave du XVIe siècle, voici une bouteille de verre. Il sait, il a l'expérience, il l'a déjà fait. Et c'est aussi c'est pourquoi le robot ne remplacera jamais l'archéologue. Il va juste étendre son geste à des plus grandes profondeurs. Donc là, lui, il sait exactement comment le saisir, dans quel sens le prendre. Et puis, si c'est nécessaire, on va commencer par souffler dessus avec les moteurs pour dégager du sédiment, pour pouvoir avoir le meilleur angle de prise. Et si l'on ne voyait pas, si on n'avait pas ce retour vidéo qui permet à l'archéologue de faire appel à son expérience, on est en train de développer avec l'Institut P' de Poitiers, dans le cadre d'un programme ANR qui s'appelle SeaHand, une main polyarticulée, c'est-à-dire une main avec pas mal d'articulations et qui ressemble un peu à une main humaine et qui va être capable de percevoir toutes les sensations de pression au bout des doigts. Donc cette fois-ci sans regarder, simplement avec ce qu'on appelle un retour haptique, c'est un système qui permet de restituer l'effort, on va être capable, et ce jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur, de palper et d'aller enfoncer la main dans la boue et que l'archéologue sentira cette fois-ci l'objet comme il le ferait lui-même sur un site turbide dans lequel il ne se fie qu'à son sens du toucher. Donc ce projet-là est en train d'aboutir, on va faire les essais en mer dans le courant, alors on aurait dû les faire cette année mais ça n'a pas été possible bien entendu, et donc on va les faire soit à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine.
Et on en trouve régulièrement des vestiges archéologiques. Et quel type de vestiges, en fait, vous mettez à jour?
Alors, ça peut être des vestiges isolés, parce que parfois, il y a des objets qui tombent des bateaux, il y a des encres qui sont perdues. Donc c'est, par exemple, la semaine dernière, on a eu la chance de tomber sur une encre. Et sinon, ce sont des... Alors, il y a des vestiges archéologiques aussi dans les fleuves et près des lacs qui peuvent être des anciens vestiges terrestres qui sont liés à l'élévation de la mer. Mais la plupart en tout cas ce qui nous concerne, nous, dans la collaboration LIRM-DRASM, ce sont les épaves. Et donc là, les épaves, il y en a plus de 200 000 dans les eaux territoriales françaises et 3 millions dans le monde, selon l'UNESCO. Donc les plus préservées, finalement, sont celles qui sont à grande profondeur parce qu'elles ont été préservées des intempéries, de la main de l'homme aussi, des vers marins. Elles se retrouvent dans l'obscurité, donc il n'y a pas d'algues qui poussent dessus, elles sont en état totalement parfait. Donc on va régulièrement avec le DRASM sur des épaves jusqu'à 500 mètres de profondeur en Corse, où là il y a un gisement fabuleux d'épaves antiques et d'épaves d'ailleurs de toutes les époques, puisqu'il y a également des épaves de la Seconde Guerre mondiale. Et puis on est allé jusqu'à 1000 mètres de profondeur au sud-ouest de la Sardaigne sur le cuirassé d'Anton qui a coulé en 1917. Donc c'est vraiment très varié, ça s'étend sur nos cibles, ça s'étend sur plusieurs millénaires.
Et vous êtes en train de travailler sur un prochain robot qui sera baptisé Arthur et qui, lui, pourra descendre jusqu'à 2500 mètres de fond. Est-ce que ces robots ont des limites de plongée en termes de profondeur?
Alors, ce robot-là, c'est le robot qui va être le compagnon du nouveau bateau du ministère de la Culture, l'Alfred Merlin, qui est en construction actuellement à La Ciotat, qui va être lancé en 2021. Et ce bateau est plus gros et donc on va pouvoir emporter justement un robot qui va jusqu'à 2500 mètres. Alors, on a besoin d'un bateau plus gros, c'est une de la première limite qui est qu'on ne peut pas mettre à l'eau un robot qui va à 2, 3, 4 000 mètres depuis un bateau trop petit. Donc par exemple, pour mettre à l'eau un robot qui va jusqu'à 6 000 mètres, là il va falloir un bateau de 80 mètres qui va coûter 80 000 euros par jour d'opération. Donc nous, les moyens des archéologues sont un peu plus modestes, donc on a dû limiter la taille du robot en raison de la taille du bateau, premièrement. Donc ce robot-là, c'est un petit robot, hein, c'est un robot qui va faire 50 kg, c'est le plus petit au monde qui pourra aller à ces profondeurs-là. En revanche, l'équipement qui permet de le mettre à l'eau va peser 10 tonnes sur le pont, puisqu'il y aura un treuil de 6 tonnes, un câble de 2 tonnes et demie, une cage de 1 kg qui va l'accompagner vers les profondeurs. Donc là, on se trouve vite confronté à des augmentations de poids et des nécessités de force qui sont liées au câble qui va relier le robot jusqu'à la surface. Donc imaginez 2500 mètres de câble, c'est 2,5 km, ça fait un câble assez imposant. Et donc ce câble-là, il va falloir l'enrouler, le porter, et c'est ça la principale limite. Bien sûr, après, il y a d'autres limites liées à la pression, mais c'est plus des limites technologiques là qui ont des solutions sur la manière de construire le robot.
Merci beaucoup, Vincent Creuse. Donc, on peut retrouver plus en détail vos aventures racontées dans les cahiers du CNRS, c'est bien ça ?
Oui, actuellement, il y a cette mission, justement, dans le golfe de Gascogne, qui est sur le site du journal du CNRS, dans les carnets de bord.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et on enchaîne dès maintenant avec un tour par la salle des machines. Fondée il y a 3 siècles, l'herbier de Montpellier et ses 3 millions d'échantillons comptent parmi les 3 plus importants en France. On vous y emmène, avec Caroline Loup, sa conservatrice.
Nous sommes à l'ancien Institut de botanique, devant la porte de l'herbier, dont je suis la responsable scientifique.
Depuis quand il existe l'herbier ?
Cet herbier-là, il existe depuis la fin du 19e siècle. C'est la réunion des collections scientifiques de la faculté des sciences et de la faculté de médecine. Ce bâtiment, il fait 6 étages. 6 étages de 20 étagères et ça représente en gros 5 km de rayonnage.
Donc là, effectivement, on est en face de grandes étagères. On voit juste des piles et des piles de dossiers. Vous pouvez me dire combien à peu près d'échantillons il y a dans l'herbier au total ?
Il y a environ 2 millions d'échantillons qui ont été scannés, photographiés. Donc on en a un petit peu plus, entre 2 et 3 millions. Le plus ancien échantillon, il est censé être du créateur du jardin, Richer de Belval, mais on ne l'a pas authentifié. Par contre, on a des vieux grimoires d'anciens pharmaciens ou étudiants en médecine. Donc le plus vieux authentique, c'est 1661.
Vous me montrez quelques échantillons alors ? Là, c'est un privilège, parce qu'il n'est pas ouvert au public, l'herbier, c'est bien ça ?
Mais non, c'est pas ouvert au public. De toute façon, ça n'a aucun intérêt pour eux, parce qu'ils ne sauraient pas où chercher. Il n'y a que les chercheurs qui peuvent y trouver quelque chose. Voilà, une planche d'herbier, vous voyez ce qui est de très important. Bon, c'est posé sur une feuille de papier, en gros format A3. Vous avez l'échantillon avec les informations. Donc ici, vous voyez, cet herbier, il a été récolté par Monsieur Lavie, forêt de Nema, autour de Toubacouta, 60 km au sud-est de Kaolac, et ça a été récolté le 19 juin 1980.
Il y a des conditions particulières pour conserver des échantillons en aussi bon état ?
Il y a deux choses, c'est la façon dont il a été préparé par le botaniste, s'il a bien séché, bien aplati, et la deuxième chose, c'est après, une fois qu'on l'a dans les collections, il faut qu'on veille à deux choses, c'est une ambiance pas trop chaude et pas trop humide. Et ensuite, c'est faire attention aux insectes qui ravagent les collections. Mais aussi la manipulation par les personnes. Vous voyez, quand je les prends, et je les manipule toujours à l'horizontale. Il ne faut pas les tourner comme des livres.
Alors, qu'est-ce que vous pourriez me montrer d'autre ?
Donc on monte à l'étage au-dessus. Alors, je vais chercher un petit peu. C'est ça, mon petit sabot de trésor que je montre quand j'ai des visites. Donc ça, c'est un petit peu plus ancien, c'est 19e, donc c'est un de mes botanistes préférés, on va dire. Il s'agit du médecin Delisle. Donc Delisle, il a été le directeur du jardin et aussi il a une vie sympa parce qu'il est parti avec Napoléon Bonaparte en Égypte pendant sa campagne d'Égypte. Il a découvert le lotus, qui n'est pas égyptien, mais qui était cultivé par les Égyptiens.
On voit une grosse fleur, effectivement.
Voilà. On a des petits dessins aussi, des petits croquis de sa part. Parce qu'il faut vous dire quand même, quand on est dans les collections, on fait collection de collections.
C'est-à-dire ?
Eh bien, on a des notes, on a des dessins, on a des livres, on a des correspondances, on a des collections de graines, de fruits, on peut avoir des collections de bois, etc. etc.
C'est pas un musée, l'herbier, c'est bien vivant.
Non, pas un musée. C'est un outil de travail, c'est un outil de recherche, parce qu'on peut justement faire des prélèvements sur les échantillons, faire des prélèvements de feuilles, par exemple faire des analyses moléculaires ou ADN, prélever des fleurs pour les disséquer, prélever des petits morceaux de bois pour analyser l'anatomie, ou on peut aussi chercher la petite bête sur la feuille, le parasite. J'ai eu une personne qui est venue une fois pour prélever des virus sur des graminées.
Je vais vous montrer une très 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 jolie.
Ah oui, je veux bien.
Vous voyez, là, celle-là, c'est une anémone. Une anémone qui a gardé ses couleurs. Elles sont rouge carmin, magnifique.
C'est magnifique, oui.
Voilà. Et cet herbier a été récolté par M. Skivet de Carondelet, qui était un ecclésiastique. Beaucoup d'ecclésiastiques ont récolté des petites fleurs.
Oh, ça aussi, c'est joli.
C'est le même collecteur. Et quand vous, en tant que conservateur, vous recevez des collections comme ça, vous avez vraiment plus de plaisir à travailler. Ah oui, il y a aussi un autre truc rigolo dans les collections, c'est que les échantillons, ils nous arrivent souvent dans des papiers journaux. Et alors là, on voyage.
Sur des échantillons tout secs comme ça, on retrouve encore de l'ADN ?
Bien sûr, on retrouve encore de l'ADN. Le problème, c'est que quand ils sont anciens comme ça, ils ont été traités avec des produits chimiques, genre celle de mercure ou d'arsenic. Et ça peut détruire les molécules. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie toujours de faire un prélèvement à part, que l'on conserve dans du gel de silice. Et comme ça, ça permet de mieux conserver l'ADN et les grosses molécules.
Ah, ça c'est le vieux.
C'est des 18e. C'est un herbier qui a été fait par un monsieur qui travaillait pour les enfants du recteur de l'époque. Et c'est un des plus anciens, une des plus anciennes collections authentifiées que l'on ait.
Il est en parfait état aussi. Ouais, on voit même tous les petits fils des racines.
Oui. Ici, vous êtes à l'étage des fougères, des champignons, des mousses, des lichens et des tropiques.
Et il y a une lumière toute verte ?
Ce sont des lampes à UV et ça nous permet de repérer les insectes, justement, les insectes qui viennent dégrader les collections.
Bonjour.
Bonjour.
Donc voici Léopold.
Vous faites quoi avec tous ces échantillons ?
Alors avec tous ces échantillons, moi je les observe, je prends des mesures aussi de longueur de feuilles, couleur des fleurs par exemple, longueur de pétales. Du coup je fais des descriptions de ces espèces et j'identifie les espèces qui n'ont pas été identifiées. Et en gros j'essaie de comprendre comment les forêts tropicales ont évolué depuis des millions d'années en me focalisant sur une famille de plantes qui sont les ananacées.
Il y a quoi de spécifique l'herbier de Montpellier alors ?
Alors l'herbier de Montpellier, il y a une belle collection tropicale et aussi c'est qu'on reçoit en prêt des spécimens d'autres herbiers. Donc ça me permet aussi de travailler ici, de ne pas avoir à non plus à me déplacer aux quatre coins du monde pour observer des spécimens qui viennent par exemple des États-Unis ou de Genève, de Berlin aussi.
D'accord. Et vous travaillez uniquement à partir d'herbiers ou vous allez sur le terrain aussi ?
J'ai aussi été sur le terrain, ouais. Où j'ai aussi fait des récoltes qui vont être intégrés à l'herbier de Montpellier, entre autres, donc au Cameroun et en Tanzanie.
J'ai pas pensé à vous demander combien il y avait d'herbiers en France.
Il y en a trois herbiers très importants, Paris, Lyon et Montpellier, qui ont de l'ordre du million. Après, il y a d'autres herbiers universitaires qui sont plutôt dans les centaines de mille. Et après, il y en a dans les mairies, il y en a dans les associations, il y en a même ici dans un collège. Tout le monde peut faire son herbier et l'inventaire des collections n'est pas encore terminé en France.
Merci beaucoup pour cette visite.
Mais c'est un plaisir. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous.
Si, comme nous, vous souhaitez vous extasier sur les couleurs magnifiques de ces échantillons, rendez-vous sur le site national du Muséum d'Histoire Naturelle. Nous vous mettrons tous les liens sur le site de Divergence FM, ainsi que quelques photos. Amrine vient de me rejoindre dans le studio pour sa chronique Les Vedettes. Bonjour Amrine.
Bonjour Lucie.
Vous nous parlez aujourd'hui d'une success story montpelliéraine, Bulan, une start-up dont le défi est de proposer une flamme propre, nouvelle génération, produite par de l'eau et de l'électricité. L'entreprise est installée à Fabrègues, dans l'Hérault, et elle travaille en collaboration avec un laboratoire montpelliérain et l'Institut Carnot Chimie Ballard Sirimat.
Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible. Jules Verne ne croyait pas si bien dire. Ces quelques mots écrits en 1874 dans l'île mystérieuse sont parfaitement incarnés par la technologie Diomix proposée par Bulan pour les postes à souder. L'entreprise a développé une technologie totalement nouvelle, une flamme propre produite par électrolyse de l'eau. Dès 2009, la toute jeune entreprise fait appel à l'équipe Agrega, Interface et Matériaux pour l'énergie issue du laboratoire ICGM. L'objectif est d'améliorer l'efficacité énergétique de leurs procédés et de travailler sur le processus industriel de fabrication d'électrodes.
Et la collaboration prend des formes multiples.
Études, réunions, thèses, publications, brevets, et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Les deux partenaires académiques et industriels et montpelliérains ont su depuis 10 ans entretenir la flamme.
Et cette fameuse flamme alors, pourquoi est-elle unique ?
Elle est l'une des rares manifestations de l'utilisation industrielle de l'hydrogène comme vecteur énergétique. Mais surtout, elle répond à un véritable besoin en termes de sécurité et de développement durable, puisqu'il n'y a plus besoin de stocker ni de transporter de gaz, et le dispositif n'émet pas de carbone. Dans cette flamme, l'hydrogène remplace l'acétylène ou le gaz de ville.
Et cette réussite, elle a largement dépassé les frontières du département, puisqu'elle remonte jusqu'au plus haut niveau.
Oui, les dernières actualités de la start-up sont liées avec celles du plan d'État hydrogène, aussi massif qu'inédit, 7 milliards d'euros. dont Bulan a été cité pendant l'annonce gouvernementale.
Il s'agit donc d'une réelle success story montpelliéraine.
Oui, médaille d'or au concours de l'innovation Batimat, trophée de l'innovation Artinov, la technologie développée par Bulan a déjà convaincu les professionnels. Et je me permettrai de terminer en citant Nicolas Gérès, directeur de Bulan, qui nous livre « Rares sont les startups françaises à développer de la technologie française. Et nous sommes fiers d'avoir pu faire tout ce chemin grâce à notre superbe collaboration avec l'équipe Agrégat Interface et Matériaux pour l'énergie de l'ICGM. La flamme hydrogène de Bulan peut rapidement et fortement décarboner les combustions fossiles dans l'industrie et le bâtiment et nous sommes parés à monter en puissance. » Fin de la citation. Si vous souhaitez plus d'informations sur cette technologie, n'hésitez pas à taper Bulan dans vos moteurs de recherche.
Et merci beaucoup Amrine. C'est l'heure pour nous d'affaler les voiles, juste le temps de remercier Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bon vent et amusez-vous bien.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu ?
Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.